Jean-Henri Chopin, l'homme aux yeux pâles. Monsieur le juge d'instruction Pierre Agénor de Vargnes est absolument le contraire d'un mauvais plaisant. C'est la dignité, le sérieux, la correction en personne. Comme homme grave, tout à fait incapable de commettre, même d'imaginer, fût-ce un rêve, quoi que ce soit pour en ressembler, fût-ce de loin, à une fumisterie. Cela connu, on comprendra sans peine que j'ai senti penser à moi le frisson de la petite mort lorsque M. Agénor de Vargnes me fit l'honneur de me raconter l'histoire suivante. Un jour de l'hiver dernier, vers les 8 heures du matin, comme il allait sortir de chez lui pour se rendre au palais, son valet de chambre lui remet une carte de visite ainsi libellée. Le docteur James Ferdinand, membre de l'Académie de médecine de Port-au-Prince, chevalier de la Légion d'honneur, et dans le bas de la carte, il y avait écrit au crayon « De la part de Madame Frogère ». Monsieur de Vargnes connaissait fort bien cette dame, très aimable créole d'Haïti, qu'il rencontrait dans plusieurs salons. D'autre part, si le nom du docteur n'éveillait en lui aucun souvenir, la qualité seule du personnage et ses titres, même sans la recommandation de Madame Frogère, exigeaient la politesse d'un accueil, quelque bref qu'il dût être. Aussi, quoique pressé de sortir, M. de Vargnes donna-t-il au valet de chambre l'ordre d'introduire ce visiteur si matinal, tout en le prévenant que le palais réclamait M. le juge, dont les minutes étaient comptées. À l'entrée du docteur, M. de Vargnes ne put, malgré son habituelle impassibilité, retenir un mouvement de surprise. Le docteur, en effet, présenta cette étrange anomalie d'être un nègre du plus beau noir avec des yeux d'homme blanc, de blanc extrêmement septentrional, des yeux bleus très pâles, très froids, très clairs. La surprise de M. de Vargnes redoubla quand le docteur, après quelques mots d'excuses sur le risque indu de sa visite, ajouta en souriant d'un sourire énigmatique « Mes yeux vous étonnent, n'est-ce pas, monsieur ? J'étais sûr qu'ils vous étonneraient. Et à vrai dire, je ne suis venu ici que pour vous les faire bien regarder, afin que vous puissiez ne les oublier jamais. » Le sourire et la phrase, encore plus que le sourire, semblaient d'un fou. Cela d'ailleurs était dit fort doucement, de cette voix enfantine, désayante, particulière aux nègres, avec les ressécrasses sous la langue en flûtement mouillé. Et dans ce gazouillis, les paroles, au son mystérieux, presque menaçant, n'en avaient que mieux l'air d'être proférées au hasard par un être dénué de raison. Mais le regard, lui, le très pâle, très froid et très clair regard des yeux bleus, il n'était pas d'un fou, certes. Il disait nettement la menace, en vérité, oui, la menace, et aussi l'ironie, et par-dessus tout une férocité implacable. Ce ne fut qu'un éclair, mais flamboyant, de façon qu'on ne put en effet jamais l'oublier. « J'ai vu, » a ajouté M. de Vargnes en me parlant, « oh, j'ai vu bien des regards d'assassins et à fond, et aucun cependant, comme en celui-là, j'en ai plongé jusqu'à une telle profondeur de crime et d'impudente sécurité dans le crime. » L'impression fut si forte que M. de Vargnes put alors être le jouet d'une hallucination, d'autant que le docteur, sa phrase prononcée, continuait en souriant de plus belle et avec son accent le plus puéril. « Vous devez, monsieur, ne rien comprendre à ce que je vous dis de là. De cela aussi, veuillez m'excuser. Demain, vous recevrez une lettre qui vous expliquera tout. » Mais il était nécessaire que d'abord je me fisse voir à vous, ou du moins que je vous fisse voir, bien voir, tout à fait voir, mes yeux qui sont moi, mon seul et vrai moi. Comme vous en jugerez. Après quoi, sur un salut d'une suprême distinction, le docteur s'était retiré, laissant M. de Vargne abasourdi, en proie à ce doute. Oh, ne serait-ce qu'un aliéné. La féroce expression, la profondeur criminelle de ce regard, aurait-elle pour cause unique le bizarre contraste de la face ténébreuse et des yeux si pâles? Ainsi absorbé, M. de Vargne laissa malheureusement s'écouler quelques minutes. Puis tout d'un coup, « Oh non, pensa-t-il, je suis le jouet d'aucune hallucination. Il n'a aucun phénomène d'optique. Cet homme est évidemment un scélérat effroyable. J'ai failli à tous mes devoirs en ne l'arrêtant pas moi-même, séance tenante illégalement, au risque de ma vie, qu'importe. » Et le juge s'était précipité dans l'escalier à la poursuite du docteur. Mais trop tard, l'autre avait disparu. Monsieur de Vargne se présenta dans l'après-midi chez Madame Frogère pour lui demander quelques éclaircissements. Elle ne connaissait pas le moins du monde le docteur Nègre et pouvait même certifier que le personnage était fictif, car très au courant de la haute société haïtienne, elle savait pertinemment que l'Académie de médecine de Port-au-Prince ne comptait parmi ses membres aucun docteur de ce nom. Monsieur de Varagne, insistant et donnant le signalement du docteur, avec mention spéciale de ses yeux si extraordinaires, Madame Frogère se mit à rire et dit « Oh, vous avez certainement eu affaire, cher monsieur, à un mystificateur. Les yeux que vous me décrivez là sont des yeux de blanc, sans doute possible. L'individu devait être barbouillé. » Rappelant alors tous ses souvenirs, M. de Vargne reconnut que le docteur, en effet, n'avait guère du nègre que la noirceur, la chevelure et la barbe en toison. Le parler facile à contrefaire, mais nullement le type, ni même l'allure onduleuse et caractéristique. Peut-être bien donc n'était-ce qu'un mauvais farceur. Tout le jour, M. de Vargne se complut dans cette idée, qui blessait un peu sa dignité d'homme grave, mais qui apaisait ses scrupules de magistrat. Le lendemain, il recevait la lettre promise. Elle était écrite, ainsi que l'adresse, en mots imprimés, découpés dans des journaux. La voici. Monsieur, le docteur James Ferdinand n'existe pas, mais l'homme dont vous avez vu les yeux existe, et vous le reconnaîtrez sûrement à ces yeux-là. Cet homme a commis deux crimes. Il n'en a pas le remords. Seulement, étant psychologue, cet homme a peur de céder quelques jours à l'impérieuse tentation de confesser ses crimes. Vous savez mieux que personne, car c'est là votre aide le plus puissant, avec quelle force irrésistible les criminels, les intellectuels surtout, éprouvent cette tentation. Le grand Edgar Poe a écrit là-dessus des chefs-d'œuvre qui ont l'exacte notation de la vérité. Toutefois, il a oublié de noter le phénomène ultime dont je vais vous instruire, monsieur le juge d'instruction. Oui, moi, criminel, j'ai besoin, épouvantablement besoin, que quelqu'un sache mes crimes. Mais ce besoin satisfait, mon secret révélé à un confident, je suis tranquille à jamais, quitte envers le démon de la perversité qui ne tente qu'une fois. Eh bien, voilà qui est accompli. Vous aurez mon secret, car le jour où vous me reconnaîtrez à mes yeux, ou chercherez à découvrir de quoi je suis coupable et comment je le fus. Et vous le découvrirez, étant un maître en votre profession. Ce qui, entre parenthèses, vous vaut l'honneur d'avoir été choisi par moi pour porter le poids de ce secret, désormais à nous deux et à nous deux seuls. Je dis bien à nous deux seuls. Vous ne pourrez en effet ce secret en prouver à personne la réalité, sinon par mon aveu que je vous défie d'obtenir sous forme d'aveu public, puisque maintenant j'ai trouvé moyen de vous le faire à vous et sans danger. Trois mois plus tard, dans une soirée, M. de Vargne rencontrait M. X, et du premier coup, sans la moindre hésitation, il reconnaissait en lui les extraordinaires yeux bleus très pâles, très froids et très clairs, les yeux inoubliables. L'homme, lui, demeura impassible, souverainement, si bien que M. de Vargne en fut réduit à se dire « C'est probablement cette fois-ci que je suis le jouet d'une hallucination. » Ou bien alors il existe au monde deux paires d'yeux tout à fait semblables. Et quels yeux pourtant, mais est-ce donc possible? M. de Vargne fit une enquête sur la vie de M. X. Et il apprit ceci, qui leva tous ses doutes. 5 ans auparavant, M. X était un pauvre étudiant en médecine, fort brillant d'ailleurs, et qui, sans être encore reçu docteur, s'était fait remarquer déjà par de curieux travaux microbiologiques. Une jeune veuve, extrêmement riche, s'était éprise de lui et l'avait épousé. Elle avait, de son premier mariage, un enfant. En l'espace de 6 mois, l'enfant d'abord, puis la mère, était mort de la fièvre typhoïde. Et M. X avait ainsi hérité, en bonne et due forme, sans discussion possible, de la grosse fortune. Il n'y avait qu'une voix pour proclamer qu'il avait prodigué ses soins aux deux malades avec un dévouement admirable. Ces deux morts, fallait-il donc y voir les deux crimes mentionnés dans la lettre? Mais alors, M. X aurait empoisonné ses deux victimes avec des microbes de fièvre typhoïde, savamment cultivés en elles, de façon à rendre l'infection invincible, même aux soins du dévouement le plus admirable? Pourquoi pas? Vous croyez cela? Demandai-je à M. de Vargne. Absolument, me répondit-il. Et ce qu'il y a de plus affreux, c'est que le scélérat a eu raison en me défiant de la contraindre à un aveu public. Je ne vois en effet aucun moyen d'y arriver, aucun. À un instant, je songeais au magnétisme. Mais qui pourrait magnétiser cet homme aux yeux si pâles, si froids, si clairs? Avec des yeux pareils, c'est lui qui forcerait le magnétiseur à se dénoncer lui-même comme un coupable. Puis, en poussant un grand soupir, « Oh, la justice d'autrefois avait du bon !» Et comme mon regard l'interrogeait, M. de Vargne ajouta d'un ton très ferme et très convaincu, « Oui, la justice autrefois avait à son service la torture. »« Ma foi, répliquai-je avec un inconscient et naïf égoïsme d'artiste, il est certain que... sans la torture, cette étrange histoire n'a pas de conclusion. Et pour le compte que je vais en faire, c'est bien fâcheux. »